Aujourd'hui, comme je disais tantôt, on est une journée spéciale dans l'année, une période spéciale. On va voir avec les passages qu'on va regarder ensemble que le Seigneur, il veut qu'on se réjouisse. Dans cette période-là, on est dans la période de la fête. C'est une fête. Pâques, c'est une fête. Des fois, Pâques, la mort. Oui, c'est vrai que c'est triste, la mort. Mais c'est à cause de sa mort qu'on peut en recevoir la vie. Fait qu'il veut, il veut qu'on fête. Il veut qu'on se réjouisse. Merci, Seigneur. Alléluia. C'était pas juste une fête dans ce temps-là. Souvent, on pense que ah, c'est le peuple juif, c'est une fête dans ce temps-là. Dieu, quand il a ordonné la fête de Pâques, c'est une fête perpétuelle. Amen. On va le voir dans des versets tantôt. C'est à perpète. À perpète, ça veut dire que ça n'a jamais de fin. C'est perpétuel. C'est toujours la fête. Chaque année, à cette date-là précisément, pour un sujet précis. Il y a une raison de se réjouir dans cette période-là. Comme tout le monde le sait, je l'espère, que la Pâque n'a rien à voir avec la tradition actuelle, parce qu'on est dans une tradition présentement, veut, veut pas, il y a une tradition qui se répète d'année après année, le chocolat, les œufs de Pâques, toute la tradition, on est rendu dans une tradition commerciale qui n'a rien à voir avec la fête de Pâques. Tout a été modifié dans le but de nous faire penser aux œufs de Pâques, aux chocolats de Pâques, au lieu de penser la vraie raison pourquoi que Pâques est là. Dieu, il avait un but quand il instituait ça. Ce n'est pas un gouvernement qui instituait cela, la fête de Pâques. Des fois, comme la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le gouvernement a décidé de mettre cette fête-là, le 24 juin. C'est une fête que le gouvernement a décidé. C'est le fun, parce qu'on a une journée de congé, mais ça n'a rien payé, mais ça n'a rien de plus comme effet dans nos vies. Mais la fête de Pâques, c'est pas les gouvernements qui l'ont installée, c'est Dieu qui a installé cette fête-là. Puis ça devra être la plus grande des fêtes chrétiennes d'aujourd'hui. C'est plus, oui, la fête de Noël, c'est beaucoup fêté, mais c'est pas une fête instituée par Dieu, la fête de Noël. C'est une fête que les gens y ont inventée. C'est pas mal de dire qu'on pense à la naissance de Jésus. Quand c'est la naissance de Jésus, bien entendu, aujourd'hui, c'est plus le Père Noël puis les décorations. Mais le fun, le plaisir, il y a pas rien de mal. Il dit, tu peux faire des fêtes pour n'importe quel sujet. Là, on parle de les fêtes de l'Éternel. Quel est le sens de la Pâque pour Dieu? Mais pour Dieu puis pour le peuple d'Israël, c'est une très grande fête. C'est une de leurs plus grandes fêtes de l'année. Pour comprendre le contexte, parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on apprend avec les chocolats de Pâques, mais tout ça, on a perdu le fil de l'histoire. Aujourd'hui, on est là pour se commémorer ce que Dieu nous a dit, pour qu'on comprenne à quoi que ça sert la fête de Pâques. Ça a commencé avec le plan de Dieu de libérer les descendants d'Abraham. Comme qu'on voit dans... Dieu a fait des alliances à Abraham, il a promis de bénir sa postérité. Puis dans les temps, mais il y a eu une très grande famille, lui qui n'avait pas d'enfant, ça a tout pris pour qu'il y ait un enfant. C'est arrivé à la fin de sa vie qu'il y a un enfant, mais après ça, le Seigneur, il a débloqué, il a eu toute une descendance. Son petit-fils, il a eu 12 enfants, puis là, c'est la tribu d'Israël avait été choisie pour représenter Dieu sur la planète. Bon, au bout d'une couple de 100 ans, il y a eu juste un peu avant, il y a eu comme une famine dans cette période-là, puis le peuple d'Israël s'est ramassé en Égypte. Pour survivre, parce que les temps étaient difficiles. Je veux faire une histoire courte, parce que c'est pas le sujet réel que je veux vous parler. Quand ils sont ramassés en Égypte, Il était béni parce qu'il était sous la bénédiction du Pharaon, mais il venait un temps qu'il y a eu d'autres pharaons qui ne connaissaient pas le peuple d'Israël et son histoire à l'origine, que Joseph avait été mis là pour amener la prospérité dans le pays d'Égypte. Mais après ça, quand les descendants sont venus, au bout d'une couple de dizaines, de décennies, peut-être 100 ans, ils ne savaient plus pourquoi que le peuple d'Israël était là, puis ils ont commencé à s'en servir de ce peuple-là comme esclaves. Là, ils ont dominé parce qu'ils devenaient trop nombreux. Puis là, ils contrôlaient même les naissances pour qu'il y ait trop d'enfants. Ils demandaient aux sages-femmes de tuer les enfants. Puis là, le peuple, il était immense là-dedans, mais il était tout comme esclave parmi les Égyptiens. Puis là, l'histoire d'esclavage, ça dit qu'ils ont été esclaves pendant 400 ans. Qui ont été esclaves, puis à souffrir, puis à crier à l'Éternel pour une délivrance. Dieu avait fait une promesse à Abraham, il avait dit ça d'avance à Abraham. L'Éternel a dit à Abraham, on voit ça dans Genèse au chapitre 15, le verset 13 et 14, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis. » On les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, puis ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu il a comme annoncé à Abraham une prophétie du futur de sa descendance, qui se retrouverait esclave dans un pays qui ne leur appartient pas, pendant 400 ans qui subirait une pression d'être écrasé comme des citrons puis d'être malmené, la vie dure, la vie amère d'être un esclave, puis qui était pour en sortir avec de grandes richesses. Puis on voit dans les Actes, et on nous parle de Moïse qui avait été choisi, puis avait été envoyé avec l'ange de l'Éternel pour libérer le peuple. C'est là que Dieu avait entrepris la délivrance du peuple d'Israël. Dans Actes 7, 35, il dit « Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. » Fait que Moïse n'était pas tout seul. Il y avait l'ange de l'Éternel avec lui pour une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Mais Dieu était avec lui, puis Dieu a permis d'avoir des miracles extraordinaires qui se produisent par la main de Moïse là, devant le Pharaon et tout son peuple. Dieu s'est manifesté puissamment dans le but de dire, « Laisse partir mon peuple, il faut qu'il sorte dans le désert pour venir me rendre la gloire. » Mais le Pharaon, il endurcissait son cœur. Chaque fois qu'il endurcissait son cœur, Dieu renvoyait une autre plaie. Des miracles spéciaux au début, changer la canne en serpent, changer l'eau en sang, de mettre sa main dans son manteau, puis elle ressortit pleine de lèpre. Il l'a remis dans son manteau, puis elle ressortit en pleine scène. Il a fait des miracles pour l'amener à croire, mais il s'est endurci, parce que les magiciens du Pharaon faisaient les mêmes miracles au début. Mais après ça, ils ont dit, c'est la main de Dieu. Dieu est avec eux, il n'était plus capable de reproduire ce que Dieu faisait à travers Moïse. Puis là, avec des miracles puissants, il y en a des miracles qui s'est produit là, dans les 10 plaies d'Égypte, que ça a fait que ça a ruiné le pays. Toutes les récoltes étaient détruites, la grêle, le feu, mais la grêle, puis les animaux qui recevaient la grêle, puis en tout cas, il y a eu un gros désastre en Égypte, mais il s'endurcissait tout le temps, jusqu'au moment où ce qui est arrivé le temps d'envoyer la 10e plaie d'Égypte, la plus pire de toute la gang. Dieu, il a parlé à Moïse. On va aller lire ça dans Exode au chapitre 12, les versets 5 à 6. Juste avant la 10e plaie, Dieu leur a dit au peuple d'Israël, là, le Pharaon, il ne vous laissera pas partir, à moins que la main puissante de Dieu soit sur le peuple. Puis là, il dit, il va se passer de quoi à la 10e plaie? Là, il leur a demandé de prendre un agneau ou un chevreau. Sans défaut et sans tache, le demandait à tout le peuple d'Israël. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Là, Dieu lui prépara le cœur. Il dit, là, vous allez prendre l'agneau. Il va se passer de quoi? Mais là, il lui a expliqué tout ce qu'il devait faire cette soirée-là, parce que c'était une soirée terrible. Ça a coûté cher au peuple des Égyptiens, parce que dans cette nuit-là, ils ont perdu le premier-né de chaque famille. Chaque maison a perdu le premier-né de sa famille. Une grande mortalité dans le peuple entier, dans le peuple d'Égypte. Fait que Dieu il a préparé le peuple d'Israël, puis il dit, allez vous chercher un agneau ou un chevreau âgé d'un an. Puis là, il dit, vous allez le garder jusqu'au 14e jour du mois. Pour ceux qui pour information, c'était le mois de Nissan. Il faut comprendre que les Juifs n'utilisaient pas le calendrier que nous, on utilise. Nous, on utilise un calendrier solaire, mais eux autres, ils utilisaient le calendrier lunaire. Puis ils n'ont pas le même nombre de jours, fait que leur journée n'arrive pas en même temps que nous. Mais une chose qu'on sait, on peut le voir encore quelle date qu'on est aujourd'hui pour nous et pour eux, le 14 de Nissan, c'était la journée qui devait immoler cet agneau-là que le Seigneur leur a demandé. L'immoler, c'est de l'offrir comme brûlé. Il fallait qu'il soit rôti, puis tout en entier. La seule chose qu'il avait retirée, c'est le sang, parce que les Juifs, Dieu les avait déjà avertis de ne pas manger de sang. Fait qu'il avait retiré le sang, mais il y avait quelque chose de spécial à faire cette soirée-là avec le sang. Il dit, ensuite, au verset 7, ils devaient mettre le sang de l'agneau sur leur cordage de porte puis de fenêtre. Prendre le sang, puis de badigeonner de sang avec des branches, le cordage de porte puis de fenêtre, parce que ce soir-là, l'ange de la mort était pour passer. Puis toutes les maisons dans lesquelles il n'y aura pas de sang sur les cordages de porte, le premier-né de la famille était pour mourir. Peu importe si c'est un Juif ou un Égyptien. Dieu a dit que la seule manière pour s'en sortir, il fallait qu'ils mettent du sang. Il y a juste le sang de l'agneau qui pouvait les épargner de tomber sous le jugement puis d'avoir la mortalité. Son verset 7, il dit, « On prendra de son sang, puis on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. » Fait que il y a beaucoup de gens qui se sont empressés à obéir. Tous ceux qui croient à la parole de l'Éternel, je pense pas qu'il n'y ait gros parmi le peuple juif qui y croyait pas, parce que avec tous les miracles puissants que Dieu avait permis de faire en Égypte, fallait vraiment que tu sois endurci pour pas vouloir le faire après avoir vu tout ce que Dieu avait fait. Puis, pendant qu'ils faisaient leur cérémonie ce soir-là, il fallait qu'ils soient tout habillés, prêts à partir. Parce que Dieu il a dit, ça va se faire vite, là. Il va se passer quelque chose dans le peuple d'Égypte, puis là, ils vont vous jeter dehors, ils vont vous expulser de l'Égypte, puis ils vont vous donner plein de stock pour accomplir ce qui avait été annoncé à Abraham par le Seigneur, de ce qu'il sortirait avec beaucoup de richesses. Mais il fallait qu'il soit prêt à sortir. Autrement dit, s'il y avait un juif que lui, oh, il n'y a rien qui presse, oh, le sang, bon, as-tu besoin de faire du sang, de mettre du sang sur les cordages? Puis si quelqu'un, il croit pas, puis il le fait pas, mais il était pour en avoir les conséquences. Fait que, on voit dans Exode, le chapitre 12, le verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Il y avait vos ceintures, vos souliers aux pieds, puis votre bâton à la main. Il dit, vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Pour ceux qui ne le savent pas, le mot Pâque veut dire passer par-dessus, passer out, épargner. En anglais, on dit pass over, passer par-dessus. Parce que l'ange de l'Éternel, cette nuit-là, l'ange de la mort, a passé par-dessus tous ceux que leur maison, il y avait du sang sur leur cordage. Ceux que le sang n'était pas là, ils ont été frappés. C'est pour ça que Dieu, quand il leur a dit ça, il voulait que tout le monde prenne au sérieux hey, faut manger l'animal, faut respecter ce que Dieu dit, puis le faire, puis d'être à la hâte, prêt à partir, parce que ça va se déclencher comme quand la mort va s'étendre dans tout le peuple d'Égypte, là. Les Égyptiens, là, ils étaient comme revirés à l'envers, c'est sûr, bouleversés. Toutes les familles avaient perdu un membre de leur famille. Puis, il était rendu, il n'avait là, des Juifs. Il n'avait là, il fallait que ça sorte, là. Les plaies étaient trop fortes. Il venait de vivre des plaies, là, qu'il n'y a même plus d'eau à boire, il n'y a d'eau, plus rien à manger, les animaux étaient morts, les champs de culture étaient tous détruits par la grêle. Ça commençait à coûter cher aux Égyptiens. Imagine-toi, là, c'était un membre de chaque famille qui venait de mourir à cause de cette plaie-là. Il faut qu'ils sortent. Là, on leur donne, tiens, prenez tout le stock, bye! Puis le but de tout cela, Dieu voulait frapper tous les dieux de l'Égypte. Parce que ce peuple-là a fait du mal au peuple qui appartenait à Dieu, à ceux que Dieu avait choisis. Dans Exode 12, le verset 12, ça dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et je suis l'Éternel. Wow! Ça a dû quand même être impressionnant de voir cela. Le premier-né de chaque famille humain et des animaux morts, comme cela. Pourquoi qu'il n'a pas pris l'autre? Non. Dieu a dit qu'il fera ça, puis c'est ça qui est arrivé, finalement. Oui. On continue au verset 13. « À cause du sang sur leur maison, ils ont été épargnés du jugement. » Ça, on lit ça comme une belle histoire, mais ça a une grande vérité spirituelle. On va le voir tantôt. Dans l'Exode, Exode 12, le verset 13, dit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Ça, c'était quatre choses. C'est pour ça que je vous dis, Dieu passait par-dessus eux s'il voyait le sang. Ce qui veut dire la Pâque, qui veut dire passer par-dessus. C'est ça qui est le vrai sens du mot Pâque. Comme je disais tantôt, ça n'a rien à voir avec le chocolat. Ensuite, la fête de Pâques, Dieu leur a dit qu'elle devait être célébrée, cette fête-là. Ils en ont fait une fête pour pas que les gens oublient ce qui s'était produit là. Ça devait être répété à leurs enfants, par leurs petits-enfants. Puis quand les enfants leur redemanderaient qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces affaires-là, mais il y avait un symbole pour cela. Ils se réjouissaient de quelque chose de spécial qui s'était produit cette journée-là, le 14 de Nissan, de l'an, je sais pas combien, 2500 ans avant Jésus-Christ. On voit que Dieu y ordonne que la fête de Pâques soit célébrée perpétuellement, dans Exode, chapitre 12, verset 14. Il dit, « Vous observerez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête. » En l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos enfants. Ça, là, c'était vraiment comme un décret de Dieu. Il exigeait que cette fête-là soit célébrée perpétuellement. Ce qu'on voit aussi dans la parole de Dieu, c'est que les fêtes vont être rétablies dans le règne des mille ans du Seigneur. Quand on parle de célébrer perpétuellement, le mot que là veut dire continuellement, ou conserver à toujours, ou constamment, ou à perpétuité, c'est tous des synonymes. Toujours, longtemps, sans cesse, incessamment, jour et nuit, c'est ça que ça veut dire, sans arrêt, que ça devait être répété, 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 que le 14 de Nissan, cette fête-là soit célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce que grand est l'Éternel, puis grande est sa puissance qui a été mise à la disposition du peuple pour le délivrer, parce que c'est une grande délivrance que le peuple d'Israël a eue cette fois-là, d'être délivré de l'esclavage qui avait duré 400 ans. Dans les points, pour récapituler les points qu'on veut souligner, qu'on veut peser, il devait trouver un agneau sans défaut. Il ne pouvait pas offrir un agneau là blessé, infirme ou malade. Il fallait que ça soit un agneau d'un an sans défaut, puis en parfaite santé. Il devait, les Juifs, ils devaient obéir, manger l'agneau avec des herbes amères, puis avec du pain sans levain. Je vais l'expliquer tantôt, c'est quoi que ça veut dire, les herbes amères puis le pain sans levain. Puis il devait aussi se recouvrir du sang, de mettre le sang sur le cadrage. Il devait être prêt à sortir rapidement, comme si ça presse, on veut sortir. C'est ça qui est le sens de l'idée. Puis ça l'a permis qu'ils ont été épargnés du jugement de l'ange de la mort. Le Seigneur, il a exigé que ce soit une fête perpétuelle afin qu'ils se réjouissent de leur délivrance que Dieu leur a accordée. C'est une fête, faut célébrer cela. Dieu est descendu puis a libéré le peuple de l'Égypte. La libération des Juifs qui avait duré dans l'esclavage 400 ans, c'est quelque chose, ça, là. Ça fait après ça 400 quelques années que le Québec a été découvert. Imaginez qu'il y aurait eu des peuples en esclavage pendant ces 400 ans-là. Puis à un moment donné, nous autres, on connaît pas l'histoire, mais on voit qu'ils sont des esclaves aujourd'hui. Puis là, Dieu décide de les délivrer. C'est ce qui s'est produit. Toujours, je crois que c'est un exaucement de prière. Le monde, il devait être là, en train de faire de la brique, là. Puis il devait être en train d'implorer le Seigneur de... Seigneur, libère-nous de cette condition-là. Tu as fait des promesses à Abraham, Isaac, Jacob, qu'on arrête tes promesses. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il a fallu quand même qu'ils piétinent. Il y en a qui ont passé leur vie à piétiner dans l'intercession pour que Dieu opère ces grands miracles-là. Il y a quand même des vérités spirituelles là-dedans. Quand ils prenaient les herbes amères, c'est parce qu'il fallait qu'ils mangent l'animal cuit, rôti. Fallait pas qu'il soit bouilli, fallait qu'il soit entier, la tête avec ses intestins. Il y a juste le sang qui est à retirer. Qu'il mange en entier, puis qu'il brûle le restant. S'il n'y avait pas assez de monde dans la famille pour manger l'animal, il pouvait se mettre avec une autre famille. Puis, il fallait qu'il mange là avec des herbes amères. Des herbes amères, ça rappelle les souffrances qu'ils ont eues en Égypte. Dans Exode, le chapitre 1, le verset 14, ça dit que le peuple d'Égypte, ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques. Voyez-vous? C'était comme si ce qu'ils ont vécu en Égypte, c'était une vie rude, amère, difficile. C'était pas un 5 étoiles, puis de se réjouir griller au soleil. Puis les herbes amères, c'était dans le but qu'ils se rappellent les souffrances qu'ils ont eues en Égypte. Puis, il y a aussi une autre affaire qu'il fallait qu'ils mangent, c'est du pain sans levain. Puis ça, Dieu a fait une autre fête qui commençait aussi le lendemain, le 15, pendant 7 jours, qu'ils devaient manger du pain sans levain. Fait que les Juifs, pendant 8 jours de temps, ils n'ont pas de levain dans leur maison. Ils font le ménage, puis ils mangent que des choses sans levain. Puis le pain sans levain, il y avait un autre symbole spirituel dans cela. On voit ça dans Deutéronome, chapitre 16, verset 3. Dieu leur explique que pendant la fête, tu mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Quand je vous disais tout à l'heure, il fallait qu'ils soient déjà habillés, le bâton à la main, prêts à partir. Puis ils mangeaient du pain sans levain pour que ça soit comme l'idée, on n'a pas eu le temps d'attendre que le pain soit levé, on sort sa presse. Il dit, c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte, puis il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. Voyez-vous, la fête de Pâques, c'était dans le but qu'ils se souviennent toute leur vie que cette journée-là, l'Éternel les a sortis, Ils ont été libérés de leur vie de misère puis d'esclavage. Puis ça s'est fait rapidement. Ah ouais, on sort d'ici. C'est pour ça que il les a exigé de manger du pain sans levain. Comme quoi, tu n'as même pas eu le temps d'attendre que le pain soit levé, tu sors. Puis pendant 8 jours, mais ils mangent du pain sans levain. Mais ça, je lui ai raconté l'origine de la fête de Pâques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la fête de Pâques, c'est un symbole prophétique. La fête de Pâques est maintenant la fête la plus grande de toutes les fêtes de Dieu, parce que c'est accompli quelque chose d'extraordinaire, cette journée-là. Alors, regardez bien dans Colossiens 2, 16, Juif et 17. Je veux vous peser sur quelque chose qui est important. L'apôtre Paul a parlé aux Colossiens qui étaient des non-juifs. Puis Paul a encouragé ces non-juifs-là. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ça, c'est qu'est-ce que les Juifs pratiquaient. Eux autres, ce peuple-là, ne les pratiquaient pas. C'est un peuple païen. Sauf que, à eux, il leur dit, laissez-vous pas vous faire juger. Parce qu'eux autres devaient la pratiquer. Puis regardez bien le verset 17. C'est écrit dans Louis II, c'était l'ombre des choses à venir. Mais si tu vas voir dans le grec, c'est pas c'était, c'est au présent qui est écrit le mot. Ça, c'est une modification par influence de l'Église catholique. Vous allez comprendre pourquoi. Il dit, laissez-vous pas juger par le monde à propos des fêtes puis des sabbats, c'est l'ombre des choses à venir. Paul est en train de lui dire que les fêtes, c'est l'ombre des choses à venir. C'est que prophétiquement, ça l'annonce des choses qui vont s'accomplir. Qu'est-ce qu'on a vu à Pâques? On a vu la mort de l'agneau de Dieu qui a versé son sang la journée de Pâques. Comme l'agneau avait été à Pâques, a été versé son sang pour le mettre sur le cadrage de porte. C'était une annonce prophétique de la mort du Messie, cette journée-là, à Pâques. Comme à la Pentecôte. Il y a eu une autre fête à la Pentecôte qui a été accomplie prophétiquement. La fête de la Pentecôte, c'était la fête des récoltes, des premières récoltes. Puis comme qui s'est produit à la Pentecôte, il y a eu une récolte de 3000 personnes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, Amen. Qui sont engagées à suivre le Christ. C'était les premières récoltes, la journée de la Pentecôte qui était la fête des premières récoltes. Dieu, par là, il veut nous dire... Laissez-vous pas juger à cause des fêtes ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir. Ça annonce prophétiquement des choses qui vont s'accomplir, puis il reste des fêtes qui doivent s'accomplir. Puis les fêtes de l'Éternel, je parle pas des fêtes du monde, les fêtes de l'Éternel qui ont un message prophétique, comme la fête des tabernacles, la fête des trompettes, c'est des fêtes qui, il va se passer des événements spéciaux dans des temps à venir. Mais je veux bien qu'on comprenne que dans Louis II, c'est écrit « c'était l'ombre des choses à venir », mais tu vas voir, le mot grec, il n'est pas au passé, il est au présent. C'est l'ombre des choses à venir. C'est encore en actualité, ces fêtes-là. C'est quelque chose qui annonce des choses qui sont en train d'arriver. Amen. Amen. Ceux qui ne me croient pas, ben, viendrez me voir, je vais vous le montrer dans mon téléphone, j'ai le dictionnaire de mots grecs, puis on va voir le mot qu'il y a là, puis ils disent en quel temps qu'il est tout. Tout est vérifiable. Par cette fête-là, le message prophétique que Dieu a voulu faire, je l'ai dit un peu tantôt, la fête de Pâques, il fallait il fallait qu'il trouve un agneau sans défaut, il fallait qu'il obéisse à manger l'agneau avec des herbes amères, bon, il fallait qu'il se recouvre du sang, puis il fallait qu'il soit prêt à sortir. Ça représente la repentance, comment il faut que tu sois prête à vouloir changer de vie quand tu viens au Seigneur. Ça va toute une vérité spirituelle avec aujourd'hui. dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, on voit qu'il fallait qu'il trouve un agneau sans défaut et sans tache. Mais Dieu en a trouvé un de ces agneaux-là. Il n'y a pas un humain sur la terre, ni un ange dans le ciel qui était digne, comme ce qui s'est produit là, dans 1 Pierre. Pierre nous dit, sachez que c'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Ça prenait un animal parfait qui soit offert en sacrifice cette nuit-là, puis de prendre son sang, puis de mettre sur le cadrage pour être épargné de l'ange exterminateur. Mais Jésus était l'agneau de Dieu qui a versé son sang la journée de Pâques. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut comprendre, qu'on est mêlé. Aujourd'hui, on ne comprend pas ça. Pâques, le dimanche. C'était pas le dimanche, Pâques. Ça, c'est la fête catholique. Vendredi Saint puis la Pâques, ça n'existe pas dans la Bible. Le vrai Pâques, c'est le 14 de Nissan. La date est écrite, puis ça tombait hier, la vraie 14 de Nissan, qui était Pâques. Puis Pâques n'est pas la résurrection. Pâques était la mort de l'agneau. Jésus est mort la journée de Pâques. Il est ressuscité 3 jours après. Mais tout le monde pense que à la résurrection du dimanche puis la mort le vendredi, ça n'a pas rapport. Puis ils mettent ça toujours le dimanche. Ça n'a pas rapport. C'est une date précise qui change d'une année à l'autre. Ça peut tomber un mardi, ça peut tomber un mercredi, ça peut tomber un samedi. C'est le 14 de Nissan, puis c'est jamais la même chose. Ce qu'on suit aujourd'hui, la tradition, comme je disais au début, c'est la tradition catholique qui n'a rien rapport avec la Bible. Tout est faussé. Pâques n'est pas dimanche. Pâques était la mort, et pas la résurrection non plus, Pâques. Comme s'ils disent qu'il est ressuscité le dimanche de Pâques. Ça n'a pas rapport. Il est mort la journée de Pâques. La vraie fête de l'Éternel qui doit être perpétuelle. Si on veut s'ajuster à obéir au Seigneur, il faudrait plus regarder ce genre d'informations-là que ce qu'on entend dans le monde populaire, parce qu'on suit des traditions d'une religion. Hein? Ah. Complètement contraire à la parole de Dieu. En plus de cela, ce qui s'est passé quand Jésus a versé son sang, c'est un agneau sans défaut et sans tache. Il fallait qu'il soit sans défaut et sans tache. Jésus, il était sans péché. Même s'il était tenté en toutes choses, il avait un corps comme nous qui pouvait être tenté en toutes choses, mais il n'a pas tombé dans aucun péché. Il n'a pas désobéi à Dieu. Il a accompli 100% ce qui est écrit dans l'Ancien Testament dans le but de nous donner sa justice. Mais quand il est mort sur la croix, ça nous a permis à nous une délivrance. Autant que le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage de l'Égypte, quand le sang de Jésus s'applique sur une personne, ça dit qu'il est délivré de sa vie passée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toute chose est devenue nouvelle. C'est la délivrance de notre passé. Il dit dans Éphésiens 1:8, en lui, nous avons la rédemption. Un rédempteur, c'est quelqu'un qui nous rachète. Autant qu'on était esclave du diable, Jésus a payé ce que ça coûte pour pouvoir nous reprendre. On lui appartient maintenant. Il nous a sortis des griffes des ténèbres. La Bible dit il nous a sortis du royaume des ténèbres, puis nous a transportés dans son royaume à lui. On est maintenant des enfants de Dieu. On appartient au Seigneur. Il a payé ce que ça coûtait pour nous racheter. On n'est plus des gens sous l'esclavage du diable. On l'était tous des gens sous l'esclavage du diable, comme le peuple juif était esclave en Égypte. Mais quand c'était l'heure de leur libération, c'est on sort de là puis ça presse. C'est Dieu qui nous sort des ténèbres puis nous emmène dans son admirable lumière. dans sa présence. On est des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Il nous a rachetés par son sang. Le sang de Jésus, c'est l'agneau. C'est le seul sang, du seul agneau qui pouvait nous racheter pour la rémission des péchés. Il y a une rémission, c'est qu'il nous a remis notre dette. On était endettés envers le Seigneur, puis on devait hériter que le jugement de Dieu sur nous. Puis il nous a remis notre dette, il a effacé la dette, tout ce qu'on lui devait. Tiens, j'ai payé ce que ça coûte, je t'ai repris, maintenant tu m'appartiens, puis je te remets ta dette. On repart à zéro aujourd'hui. Quand tu es né de nouveau, tu repars à zéro. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une nouvelle vie qui se fait avec le Seigneur. C'est grâce au sacrifice de Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu y accorde la protection du jugement éternel. C'est quelque chose, cela. Sans le sang de Christ sur nous, nous subirons le jugement éternel. C'est pour ça qu'il est important d'évangéliser. Il y a des milliards de personnes qui savent pas qu'il faut qu'ils traversent l'autre bord en mourant, en ayant le sang de Jésus sur eux. Sinon, s'ils sont pas couverts par le sang de Jésus, ils vont être séparés de Dieu pour l'éternité. C'est quelque chose. Dans Romains 5, 9, il dit, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » À cause du sang de Jésus, on est sauvés de la colère de Dieu. On n'aura pas besoin de subir sa colère. Parce qu'il ne faut pas le cacher. Dieu est amour. Dieu est juste, mais Dieu est en colère. Il dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle, puis celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie, puis la colère de Dieu demeure sur lui. C'est quelque chose, pas moi qui invente ça. C'est pour ça qu'il est important d'être sous le sang de Jésus. C'est pas juste de dire, je vote pour Jésus, c'est qu'on devienne son disciple, qu'on se repente, qu'on veuille vraiment sortir de l'Égypte à la hâte, qu'on est prête. Quand tu viens à Jésus, il faut déjà que tu sois prête à vouloir sortir de là. Si tu veux rester dans ta vie de péché, tu n'es pas encore passé. Ça prend de la repentance sortir. C'est un des critères que le peuple juif devait être prête à sortir. Puis ça représente la repentance. Puis les gens qui veulent recevoir le sang de Jésus sur eux pour être purifiés, il faut qu'ils soient repentants, prêts à sortir. Je veux sortir, je suis tanné de cette vie-là, je veux que ma vie se change, puis je veux surtout d'être pardonné parce que je veux pas mourir dans mes péchés, puis d'arriver l'autre bord, puis pas pouvoir rentrer parce qu'on est couvert de péchés, puis ça nous empêche. Nos péchés nous empêchent d'entrer dans la présence du Dieu Saint. Il faut absolument être purifié. Puis la seule chose qui pouvait nous purifier, c'est le sang de Jésus.
Amen.
Amen. Jésus est la résurrection et la vie. Quand tu viens à Jésus, tu n'es pas juste changé en étant pardonné. Il te ressuscite. Le sang de Jésus te pardonne. Mais à cause que tu as été pardonné, là maintenant, le Saint-Esprit peut entrer dans ta vie. Quand tu commences à vivre la communion avec l'Esprit-Saint, suite à ta repentance, après que tu aies reconnu que Jésus pouvait te pardonner, tu le prends le pardon, tu te repens, mais là, il y a une nouvelle vie qui commence, puis Dieu rentre dans ta vie pour cette nouvelle vie-là. Une communion avec l'Esprit de Dieu. Tu ne l'avais pas avant, tu étais mort. On était tous des morts vivants, des séparés d'avec Dieu à cause de nos péchés. Mais à partir du moment où tu retournes au Seigneur, il te pardonne, puis là, ça permet à l'Esprit-Saint d'entrer dans ta vie, puis que tu deviens né de nouveau. Puis là, il y a une nouvelle vie qui commence, tu marches avec le Seigneur. Mais ça, c'est une résurrection. Le mot « ressuscité » veut dire « retour à la vie ». Avant, on était mort, le mot « mort » veut dire « séparé ». On était mort, maintenant, on est en communion avec lui, on est des êtres ressuscités. Par sa mort, ça nous permet d'avoir la vie. Merci Seigneur. La mort et la résurrection de Jésus nous permet de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. À cause de son sang qui était versé à la croix, on est maintenant des bénéficiaires. On peut saisir par la foi tout ce qu'il a à nous donner. C'est pour ça que le message de l'Évangile, je l'ai dit mercredi passé, puis l'autre mercredi d'avant, le message central de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est Christ, puis Christ crucifié. C'est le centre de l'Évangile. Pâques, c'est Christ, puis Christ crucifié. Pâques, c'est la mort du Seigneur. Il est accroché à la croix, son sang est versé pour nous ouvrir à tout le monde, juifs comme les païens, un accès de pouvoir être pardonné, purifié, racheté, parce que c'est notre Rédempteur. On a eu la rémission de nos péchés, puis on est maintenant des êtres ressuscités, puis on a toutes les promesses de Dieu à notre disposition. Merci Seigneur. Jésus-Christ, c'est notre Pâque. C'est notre agneau à nous. Dans 1 Corinthiens 5, 7, je termine avec ce verset-là, 7 et 8. Puis, regardez bien ce qui est écrit dans ce verset-là. Il dit, là, il parlait d'un sujet, puis il dit de ne pas avoir de levain dans nos vies. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Là, regardez le début de l'autre verset. Célébrons donc la fête. Les fêtes sont-elles abolies, les fêtes de l'Éternel? Il nous dit dans le Nouveau Testament, célébrons donc la fête. Ça veut dire qu'il faut encore célébrer la fête de Pâques. La Pâque de l'Éternel, pas la Pâque catholique. Si on veut être fidèle au texte, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu nous révèles dans ta parole. Je te remercie pour ces beaux versets-là qui nous révèlent le but, la raison de la fête de Pâques. Seigneur, que ce soit gravé dans notre cœur, qu'on puisse se souvenir ton grand sacrifice à la croix. Seigneur, ton sang qui était versé, c'est le sang de l'Alliance, la nouvelle Alliance éternelle que tu as faite avec nous pour qu'on puisse être pardonné, racheté, qu'on puisse t'appartenir, qu'on puisse être sauvé. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. On veut te dire merci, puis on veut te rendre la gloire qui te revient dans le nom de ton fils Jésus. Amen. Amen.